Maintenant, je vais appeler Mathias Gibert. Mathias, t'es où? Et il est doctorant à RFI, en philosophie à l'Université de Toulouse Jean Jaurès depuis 2017-18. Après avoir étudié la phénoménologie, en particulier celle de Michel Henry, sa recherche apporte sur la perspective et les perspectivismes. Hier, il nous a parlé un tout petit peu qui c'est la notion perspectiviste de le perspectivisme, quelque chose comme ça, la perspective perspectivistisée.
J'en parlerai.
Voilà. Et aussi sur certains aspects de l'invention de la perspective parmi une vision perspectiviste. Et aussi certains aspects de l'histoire de la métaphysique occidentale, etc. Donc, il est bien nourri par Tarde, Descola, Vivien Rusco, Latour et Stenger. Et sa thèse, c'est Perspective et existence, genèse et récit du perspectivisme, sur la direction de Pierre Montebello et Aline Viam à Toulouse. Donc,
merci.
Merci d'être entre nous. Et je donne la parole.
Je vais chronométrer parce que des fois la machine s'emballe. Et voilà. Alors bonjour à tout le monde. J'allais me présenter, puis finalement, c'est pas la peine. Donc je vais expliquer quand même en quelques mots, tout d'abord, de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Parce que ce n'est pas question de toute l'histoire de la perspective, ça demanderait peut-être des mois. Donc je vais expliquer en bref la question principale qui m'occupe. Alors, mon travail de recherche, comme il a été dit, s'intitule Perspective et existence. Il est consacré à l'interprétation de, je vais peut-être parler plus près, à l'interprétation de la notion de perspective et notamment de perspectivisme en philosophie. Donc, dans un dialogue nécessaire avec l'esthétique, l'histoire de l'art, et naturellement avec ses prolongements, le prolongement du perspectivisme dans le champ de l'anthropologie aujourd'hui, dont il a été question un peu déjà tout à l'heure. Je pense évidemment à Eduardo Viveiros, je vais le dire en français, hein, Eduardo Viveiros de Castro, qui a motivé par ses travaux et c'est la rencontre avec sa pensée qui m'a donné envie de rechercher le sens du perspectivisme, enfin l'essence et les diverses manifestations de ce concept dans l'histoire de la pensée occidentale. Alors, si je devais résumer ma réflexion en une question, on pourrait le faire de la façon suivante. La question serait de savoir, on pourrait le résumer ainsi, sommes-nous condamnés à penser le monde, notre existence et les relations que nous engageons avec les autres à partir de la notion de point de vue, de perspective, qui est une notion banale, une notion ordinaire de notre rapport aux autres, au réel, à l'espace, à autrui? Ou bien, est-ce que cette nécessité apparente du langage perspectif que nous avons totalement intégré est-elle le fruit d'une histoire bien singulière dont nous pouvons reconstruire la généalogie, c'est-à-dire les ancêtres, afin d'en dégager de nouveaux possibles, c'est-à-dire peut-être de nouveaux perspectivismes à notre époque? Voilà. Sommes-nous condamnés à penser en perspective? C'est un peu ça l'idée. Ou bien pouvons-nous en sortir? C'est pas si simple. Donc, pour ma part, évidemment, je ne prétendrai pas répondre à cette question, d'autant plus que je ne suis qu'en deuxième année de recherche, donc je serais extrêmement productif, mais hélas, il faut laisser le temps au temps. Mais j'aimerais néanmoins esquisser, à partir de ce problème, ce que j'appelle un portrait philosophique de la perspective et du perspectivisme, en proposant une série de distinctions qui nous permettraient peut-être ensuite d'en discuter ensemble. De discuter des enjeux qui sont inclus dans la question du perspectivisme au sens large, et bien sûr aussi peut-être des limites de la pensée en perspective, du perspectivisme. Donc je parlerai en premier temps, j'avais prévu trois temps, mais je crois que oui, deux temps seront suffisants. Ce sera peut-être l'occasion d'approfondir lors des questions, si vous avez des questions. Donc je parlerai en premier temps de l'équivocité de la notion de perspective, c'est-à-dire de son ambiguïté, et de la difficulté de la traiter d'une manière philosophique, en raison donc de cette ambiguïté. Dans un deuxième temps, j'essaierai néanmoins de proposer une définition, non pas de la perspective, mais du perspectivisme, à partir du premier perspectivisme affirmé, au sens où le mot apparaît, très tardivement, c'est-à-dire dans la pensée de Nietzsche. C'est Nietzsche le premier à utiliser le mot perspectivisme et des différentes conséquences que la pensée de Nietzsche, du moins la pensée du perspectivisme nietzschéen, nous permettent les conséquences que nous pouvons tirer de ce perspectivisme pour ce qui concerne une chose aussi, j'allais dire une chose aussi simple que ce que ça veut dire penser. Donc pour la philosophie. Voilà, donc dans un premier temps, je m'attarderai sur, mais ça sera assez rapide parce que sinon ça nous entraînerait dans des détails techniques et historiques qui n'ont pas beaucoup d'intérêt ici. Je m'attarderai sur donc les équivoques que produisent les différents sens, la plurivocité de la perspective et donc du perspectivisme. Puisque le mot est appliqué, vous allez voir, pour des réalités très très différentes, des réalités historiques, des pensées historiques très différentes. Bon, on peut commencer par dire que la perspective est sans doute un des objets esthétiques les plus fascinants, peut-être, en tout cas les plus étudiés par les historiens de l'art depuis, le discours sur l'art a accompagné la naissance de la perspective, si on pense aux vies des peintres illustres de Manetti ou de Vasari. Bon, voilà, vous avez la naissance de l'art est impliquée par la naissance du discours sur l'art, et la perspective est vraiment le phénomène qui a, si vous voulez, socialement libéré les artistes des ateliers, de la condition d'artisan, etc. Donc la perspective est d'abord un instrument d'émancipation de l'art, des artistes et du discours sur l'art. Donc c'est pour ça peut-être que c'est un des objets les plus privilégiés, à tel point qu'on pourrait dire, oh, encore la perspective, on commence à en avoir marre, ça fait un siècle qu'on n'en fait plus, si ce n'est dans le design, ou mais plus en art. Alors, on pourrait commencer par là en disant que la perspective est quand même un objet récurrent du discours sur l'art. Ensuite, une fois que l'on a compris ça, il m'est apparu que le sens des usages philosophiques de ce concept, et de son champ lexical, j'allais dire, c'est-à-dire le perspectivisme, le point de vue, le point de fuite, le point d'origine, tout ça, le sens philosophique de ces mots extrêmement ordinaires, n'ont jamais été, à ma connaissance du moins, si ce n'est dans l'œuvre de Hubert Damisch, l'origine de la perspective, mais il ne s'intéresse pas au perspectivisme, juste à l'origine de la perspective. Donc ces usages du perspectivisme n'ont jamais été étudiés par des historiens de la philosophie. Donc à ma connaissance, peut-être quelque part dans une langue que je ne connais pas, il y a un écrit, et je serais ravi de le savoir si l'un d'entre vous est au courant. Même quand il est mentionné chez des auteurs, le perspectivisme, dans la littérature secondaire, au sujet de Leibniz, au sujet de William James, au sujet de Deleuze lui-même, le sens de la notion de perspective, de point de vue, de perspectivisme demeure quelque sorte dans un flou théorique. C'est pas trop ce que ça veut dire, en fait. On comprend bien, puisqu'on est tous plongés dedans, dans le point de vue, c'est notre ordinarité, c'est notre quotidien. Mais au final, quand on cherche à donner une définition rigoureuse du sens de la perspective, soit c'est trop technique, trop érudit, alors voilà, il y a les perspectives orthogonales, perspectives linéaires, perspectives cavalières, etc., mais ça ne correspond pas à ce qu'on dit. Du moins, la différence entre les différentes perspectives ne crée pas du sens pour nos usages philosophiques. Elle reste donc une simple métaphore, voilà, vue de ce point de vue, si on change de perspective, etc., dont ni le fondement esthétique ou mathématique, ni la portée ne sont réellement pensées, thématisées. Donc c'est un signifiant qu'on pourrait qualifier de flottant et d'une banalité peut-être infra-philosophique. Voilà. Et ça, c'est ce que dit Deleuze dans une citation célèbre d'un de ses cours sur Leibniz. Qu'y a-t-il de plus banal qu'une perspective qu'un point de vue. Qu'y a-t-il de plus banal qu'un point de vue. Alors comment en faire. Comment en faire un objet conceptuellement rigoureux. J'irais même plus loin, je dirais que c'est peut-être pas possible. Voilà, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas. Parce que si on fait une liste rapide des diverses apparitions de la perspective et donc du perspectivisme, ben, on a une ribambelle de personnages qui n'ont apparemment aucun rapport entre eux. L'apparition du terme, en Occident du moins, est une traduction des traités d'optique arabo-musulmane du Moyen-Âge. Donc on parle de perspectivistes pour parler de philosophes comme Roger Bacon, John Peckham, qui ont donc intégré, si vous voulez, les acquis de l'optique arabe, qui prolonge et qui dépasse, qui est très importante en fait pour l'histoire de la physique optique en fait. Rien à voir avec ce qu'on appelle philosophie ni perspectivisme aujourd'hui. Puis on arrive à la perspective artificielle des renaissants, donc Alberti, Piero della Francesca, Durer, toutes ces choses qui ont été très très étudiées, qui bien sûr a un rapport plus ou moins étroit avec la perspective des médiévaux. On s'en rend compte aujourd'hui grâce au progrès, grâce aux travaux qui y ont été consacrés. Donc il y a moins de ruptures que ce que l'on croyait, mais néanmoins il s'agit d'autre chose. Enfin on arrive à un troisième temps, à l'époque moderne, avec Leibniz, Pascal. La perspective dans le sens géométrique du terme, où les règles de la géométrie projective ont fondé en quelque sorte ce que les peintres avaient plus ou moins découvert empiriquement. Donc là, c'est les théorèmes de Girard des Argues, la géométrie, qui parle donc de la géométrie projective. Et bien entendu, c'est à partir de là qu'on comprend comment Leibniz, qui a lui-même étudié de très très près ces innovations-là, va intégrer tout un lexique perspective dans la philosophie. Bon, donc, vous voyez, on a le Moyen-Âge, les Renaissants, la période moderne. À chaque fois, ça change de sens et de champ disciplinaire. On passe de l'optique à la peinture, à la géométrie. Et on en arrive à l'époque contemporaine avec Nietzsche, qui nous dit que le perspectif est le fondement de toute vie. Bon. William James, je ne me souviens pas s'il utilise le terme perspectivisme, mais en tout cas, le terme est constamment associé chez les commentateurs, chez Vincien Després, chez David Lapoujade, en français en tout cas, et chez Whitehead, qui utilise le mot perspective, très clairement, dans un sens spéculatif, donc cosmologique, qui se rapproche de notre époque. Et bien sûr, nous avons Gilles Deleuze, qui a quelques formules bien, bien frappées quand il commente Leibniz, et puis de façon plus diffuse dans sa pensée. Bon, voilà, on a une vraie farandole de significations disparates qui vraiment, on peut bien se demander donc, s'il y a un point commun entre toutes ces apparitions, au-delà, si vous voulez, de la banalité ordinaire du point de vue. Alors, j'ai volontairement oublié de mentionner l'apport récent qui m'a motivé, à savoir celui d'Eduardo Vivos de Castro et de Tania Stolza Lima, qu'on a trop tendance à oublier, puisqu'ils sont deux, voire même trois, à avoir fondé le perspectivisme en anthropologie, dans des articles qui datent des années 90. La thèse d'Eduardo Vivos de Castro date de 86, donc ça commence à dater. C'est un peu plus vieux que moi, d'ailleurs. Et qui font un usage novateur d'un lexique, d'un langage perspectiviste, pour désigner les choses. Je ne reviens pas dessus, je suppose que c'est plus ou moins connu, on pourra en parler s'il faut. Les idées donc animistes, selon la terminologie de Descola, les idées chamaniques des peuples que Vivos de Castro appelle extra-modernes, pour ne pas les ramener à une modernité qui serait une référence. Et donc, et en gros, bon, le perspectivisme remet en question nos grands partages, nature et culture, humain, non-humain. Bon, tout ça se trouve fortement relativisé dans un approfondissement de la critique lévi-straussienne de l'ethnocentrisme, qui propose donc une théorie pratique de la décolonisation de la pensée. Bon, voilà, toutes ces choses qui sont connues. Le tournant ontologique de l'anthropologie, c'est-à-dire l'anthropologie devient un discours sur l'être à partir du point de vue, à partir des pratiques, à partir des pensées, des idées amérindiennes ou des idées d'autres peuples, et devient aussi donc le tremplin vers une réflexion métaphysique que Vivos de Castro appelle mythophysique, voilà, dont la valeur aujourd'hui se comprendrait à l'aune de l'anthropocène et des questions qui agitent, qui secouent l'époque contemporaine. Mais vous allez me dire, tout ça c'est très bien, mais quel rapport avec l'histoire de la peinture ? Voilà. Alors, tout est là. Je passe donc à la question des limites, à la question de la définition, de la délimitation du sens du perspectivisme, puisqu'on vient de voir que, a priori, c'est un concept un peu fourre-tout, hein, qui a une histoire précise, mais dont la continuité n'apparaît pas. Donc, je vérifie le temps, c'est bien. Donc, la perspective artificielle, celle dont on parle, celle de la Renaissance, est un fait d'une importance philosophique généralement sous-estimée. Si on pense que le traité de Léon Battista Alberti, qui date de 1435, de la peinture, des pictura, qui en donne donc les premiers fondements mathématiques, bon, plus ou moins, disons, on n'est pas encore à la rigueur, on n'a pas encore la rigueur du XVIIe siècle, mais voilà, on a les premiers fondements mathématiques de la vision perspective, hein, c'est-à-dire la définition du tableau comme la rencontre du point de fuite et du cône visuel. Bon, Hubert d'Amiche considère ce texte de 1435, comme dans son livre « L'origine de la perspective », comme un texte fondateur de la pensée occidentale. Voilà, donc c'est quand même considérable. Il s'agit donc de se demander en quoi il est fondateur, en quoi l'invention de la théorisation de la perspective, qui était plus ou moins connue, bon, je ne rentre pas dans les détails, au Moyen-Âge, même dans l'Antiquité, on a des bribes, en quoi cette mathématisation de la perspective, cette théorisation de la peinture, est fondatrice de la pensée occidentale. Alors, on a un livre récent de philosophie, tout ce qu'il y a de plus philosophique, d'Isabelle Thomas Fogiel, qui s'appelle donc Le lieu de l'universel, où elle ouvre sa réflexion sur le réalisme contemporain, à partir de cette idée que l'invention de la perspective artificielle, donc ce fait fondamental, fondateur de l'Occident, serait un dispositif esthétique qui aurait constitué toute la modernité philosophique, sans exception. C'est-à-dire un dispositif. Le tableau, si vous voulez, comme une image de toute la pensée de la modernité jusqu'à Kant. qui représenterait en quelque sorte le sommet. Et elle dit donc, en ce qu'il serait donc fondateur de notre modernité, en ce qu'il aurait, le tableau perspectif, conditionné nos relations à tout autre, aux choses, à l'espace, à autrui. Alors je cite une petite phrase, puisque c'est très important. Elle dit, comment suis-je au monde ? Sur le mode du face-à-face, face à l'espace, face à l'objet, face à autrui. Le dispositif de la perspective, c'est comme ça qu'elle le nomme, le dispositif de la perspective, générateur d'une conception ordonnée de l'objet, par les mathématiques, a permis la transformation du monde en représentation. C'est notre pain quotidien, hein, c'est vraiment là d'où nous partons. Alors, elle fait un petit sort au perspectivisme, mais qu'elle l'expédie en une petite page, mais très intéressante. Elle dit, le perspectivisme, quant à lui, bien sûr, se situe dans la volonté actuelle, réaliste, de subvertir ce cadre trop humain de la représentation, ou trop conscient, on a envie de dire, afin de retrouver le réel, le vrai, derrière ces doubles anthropomorphiques et ou subjectivistes. Mais il y a un mais, selon donc Isabelle Thomas Fogiel, le perspectivisme, elle pense au perspectivisme de Nietzsche, puisque c'est à peu près le seul qui peut prétendre à ce nom, le perspectivisme nietzschéen donc, serait marqué par une difficulté, une inconséquence, car, dit-elle, en pensant s'opposer à la perspective classique et à son sujet porteur, c'est-à-dire un sujet, un objet, en ce qu'il nie toute possibilité d'objectivité, hein, comme dit Nietzsche, si je résume en une phrase extrêmement ambiguë, il n'y a pas de fait que des interprétations. Donc, en pensant s'opposer au sujet classique, à la perspective classique, le perspectivisme ne fait que considérer l'individu et l'incommensurabilité des interprétations, qu'il n'y a pas de fait que d'interprétations, que des interprétations. Et donc, suivant, d'après elle, le perspectivisme serait non pas une alternative au sujet cartésien, à la philosophie, disons, à la métaphysique classique, mais sa réalisation, c'est elle qui le dit, sa réalisation la plus achevée. Pourquoi ? Déjà, le nom même du perspectivisme l'indique, parce qu'on ne peut pas, pense-t-elle, sortir du modèle de la perspective, c'est ce qu'elle nomme l'impossible rétrocession, on ne peut pas aller en arrière, on ne peut plus penser sans la perspective. Et en ce sens, le perspectivisme, face à l'impossibilité de sortir de ce dispositif sujet, objet, horizon, monde, etc., eh bien, plutôt que d'en sortir, puisque ce n'est pas possible, il ne fait que l'hystériser, c'est-à-dire qu'il l'applique partout, on le projette sur tous les êtres. Puisqu'on n'est pas capable de penser autrement et qu'on veut en sortir, la solution du perspectivisme, c'est de perspectiviser, enfin que tout le monde perspectivise. Voilà. Les animaux perspectivisent, les pierres perspectivisent, les plantes perspectivisent. Tout le monde voit en perspective. Et donc, Isabelle Thomas Fogiel voit là-dedans une hystérisation. Bon, elle ne le dit pas, mais c'est moi qui le dis. Elle voit donc une hystérisation de la perspective parce qu'on est incapable d'en sortir. Voilà. Et donc, elle propose une autre solution, plus phénoménologique, plus hegelienne, plus merleau-poncienne. Bon, je ne reste pas là-dessus, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai d'ailleurs pas très, très réussi, mais enfin, je devrais peut-être pas le dire. Donc, pourquoi donc le perspectivisme ne peut pas être réduit de cette manière par une sorte d'hystérie, si vous voulez, de la projection sujet-objet ? Parce que d'une part, elle ignore complètement les apports du perspectivisme amérindien. Ça n'existe pas pour elle. C'est un livre de 2015, hein, donc ça fait quand même 20 ans presque que c'est dans les tuyaux, mais non, ça n'apparaît pas. Et d'autre part, bon après c'est vrai que c'était pas traduit, bon enfin, ça a été traduit très tard, bon, peut-être. Tout le monde ne lit pas le portugais, c'est vrai. Et ensuite, en ce que, là où je vais attaquer, c'est qu'elle ramène le perspectivisme à la pensée de Nietzsche sur l'interprétation et l'individu. Et ce qu'elle dit de Nietzsche en une phrase me paraît très très discutable. C'est là que je vais essayer de donc proposer une définition du perspectivisme à partir de la pensée de Nietzsche contre cette lecture qui tend à faire donc du perspectivisme une sorte d'hystérie de la projection, une projection hystérique d'une relation trop humaine, si vous voulez. Je crois que là, on rate complètement le sens du perspectivisme nietzschéen, en tout cas. Alors, pourquoi Nietzsche ? Parce que, comme je l'ai dit, Nietzsche est le premier philosophe à utiliser ce concept de perspectivisme, pas de perspective. On en parlera peut-être de la perspective. C'est pas Nietzsche le premier, bien entendu, ça remonte dès la Renaissance. Et en français, c'est intéressant de le savoir, puisque c'est un point historique, mais enfin, je crois que c'est assez tardif, pour le